Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 25, les concerts Michel Foucault et Jean-Paul Aron.
Mon cercle d'amis, bien entendu, par la force même des choses, s'est étendu parce que les Granel connaissaient beaucoup plus de monde dans Paris que moi-même je n'en connaissais. Gérard avait en plus cette quantité de camarades, enfin, qu'il avait eu à Jansson de Sailly depuis sa sixième. Je me suis extrêmement lié à ce moment-là avec Roland Fontmontano, qui faisait du droit et qui était une sorte de grand escogriffe absolument charmant, bredouillant, ce qu'il destinait mal à sa profession d'avocat, bredouillant et charmant, absolument fou de musique, fou de Wagner et de Mozart. Et j'allais avec lui, il avait une moto, et moi, il m'installait derrière la moto, et au concert Colonne, à 5 heures du soir le dimanche, voilà, on allait entendre les derniers feux de Flagstad, qui étaient encore des feux parfaitement capables d'allumer le bûcher de la scène finale du crépuscule et de tenir avec le souffle et avec du feu jusqu'à la fin de l'immolation. Tout cela était pour moi évidemment un enrichissement et des découvertes extraordinaires. Et naturellement, j'ai un peu tendance à faire rentrer l'une dans l'autre mes deux premières années d'école, parce que ce sont les deux pendant lesquelles j'ai réellement été intime avec Gérard et vivant en grande partie plutôt chez lui que là où j'aurais été chez moi. Lorsque, 2 ans plus tard, il aura à se concentrer plus réellement sur son agrégation, aura le très grand désir de la réussir très vite, de façon à pouvoir épouser le plus vite possible la petite cousine à lui qu'il avait découverte dans les vacances que nous prendrons ensemble l'été suivant, en septembre 51, à Cahuzac, au fin fond du Lauragais et du côté de l'Ariège. À ce moment-là, par la force des choses, nous nous séparerons parce que son cœur sera beaucoup plus là-bas et il lui arrivera même d'emballer ses affaires, ses bouquins et d'aller travailler réellement sa philosophie à Cahuzac et non plus du tout à Paris. Bien. Mais ces deux premières années, j'ai été peu à l'école, le moins possible. Je n'ai été qu'aux très rares cours qui pouvaient être soit dits obligatoires, et je ne me souviens pas qu'il y en ait eu beaucoup, surtout en cette première année, soit proclamés fascinants de toute façon, car il y avait un certain nombre de choses qui étaient fascinantes à l'école à ce moment-là. Il y avait personnages appelés à devenir les gens des mêmes mythes, il y avait Michel Foucault. Foucault avait fini par passer son agrégation, brillant comme il était, et philosophe solide et génial comme il était, il n'avait pas eu tellement de facilité à la passer. Il est vrai qu'il avait sans doute des questions de santé, enfin qui s'en mêlaient déjà à cette époque-là. Le fait est en tout cas qu'après son agrégation, il vivait à l'infirmerie, à l'école, donc absolument en extéritorialité. Et de cette infirmerie, il sortait parfois pour donner des cours, et notamment donner des cours aux conscrits. Il commençait, ça a été, je pense, les tout premiers cours qu'il ait jamais donné, des cours de psychologie qui étaient d'une nouveauté et d'un intérêt fascinant, parce qu'en vérité, il n'abordait que des concepts et des idées dont nous n'avions pas eu encore idée dans nos études classiques, des noms propres parmi les philosophes dont nous n'avions pas idée et qui nous changeaient extraordinairement. Par exemple, du cours de psychologie, pour nous tout à fait obligatoire à la Sorbonne, parce que comme Lagache, comme M. Lagache interrogé sur les questions qu'il avait posées et qu'il avait traitées dans ses cours, et que son verdict au certificat de licence était un très sec, c'est bien, vous savez. Ou bien, vous ne savez pas. Voilà, il n'y avait qu'à s'en aller béni ou chassé. Bon, la psychologie que faisait Foucault était bien entendu d'une qualité, d'une subtilité, d'une nouveauté, d'un caractère à la fois scientifique et prospecteur. Et littéraire aussi, je veux dire que Thomas Mann pouvait y trouver sa place. Il n'y avait pas parmi les enfants de Freud. Donc on avait cela. Foucault, d'ailleurs, faisait venir volontiers les jeunes têtes blondes. Les chères petites têtes blondes qui venaient de recevoir leur baptême de jeunes normaliens pour les faire asseoir en groupe ou éventuellement seules à ses pieds pour l'entendre discourir dans sa chambre le samedi soir. Il y avait parfois la compagnie de Jean-Paul Aron qui n'avait rien d'autre à faire à l'école puisqu'il n'était pas de l'école que d'y être le commensal de Foucault. Et cela faisait bien entendu un duo extrêmement fascinant, aux envolées intellectuelles pointues, intarissables et extrêmement drôles, parce qu'il y avait énormément de drôlerie lorsqu'ils n'étaient pas obligés de se prendre au sérieux, comme ça leur arrivait quand même quelquefois devant un certain public. Jean-Paul Aron raffolait de moi, d'abord parce que j'étais assez joli garçon, et puis parce que j'avais une chemise blanche. Et il trouvait ma chemise blanche, dans le contexte de l'école normale, souverainement convenable. Et puis il trouvait aussi souverainement convenable, il le disait avec sa voix absolument incroyable, perchée et nasillarde, d'une façon inimitable, il trouvait souverainement convenable que je m'intéressasse même à Bach, et à la cantate 51, dont il connaissait le Jauchzet traduit en français pour les disques Lumen avec Martin Angelici, et il savait sur le bout du doigt en français, lui alsacien et germanophone, il savait en français par cœur le duettino de la cantate 78, pépillé par Martha Angelici et Germaine Cernay. Et il était bien entendu aux anges que moi aussi je l'eusse découverte de mon côté. Et comment avais-je fait pour la découvrir? C'est une histoire assez remarquable. Et qui en dit quand même assez long sur l'école normale et ses arrière-plans, ses tréfonds.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.